You talking to me?
My time's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
Le 7 mars 1999, peu avant 20h, une nouvelle a bouleversé les journaux télévisés et le monde entier.
Madame, monsieur, bonsoir. Le 7e art en deuil avec la disparition de Stanley Kubrick, l'un des réalisateurs les plus doués de sa génération. On ne compte plus ses films à succès, auteurs d'Orange Mécanique, de Docteur Folamour, de Spartacus et surtout de L'Odyssée de l'espace, pour ne citer que. Il est mort à 70 ans à son domicile dans la banlieue londonienne.
Et ce jour-là, tout le 7e art rend hommage au génie de Kubrick. Spielberg, Godard, Scorsese, Jack Nicholson, Kirk Douglas ou Woody Allen, tous saluent le rôle fondamental de Kubrick au cinéma. Warren Beatty a cette formule: c'était un fait acquis que Stanley savait quelque chose que vous ne saviez pas. Si l'Amérique m'était comptée, Stanley Kubrick, 13 films pour une légende.
Hi guys.
Allez, commençons tout de suite avec une chanson qui figure au générique du film Full Metal Jacket, une chanson de 1963, sortie en pleine guerre du Vietnam. Voici Surfing Bird des Trash Men.
Oh well, everybody's heard about the bird. Bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird.
C'est un gamin du Bronx, né le 26 juillet 1928.
Adepte de l'école buissonnière, il devient un élève médiocre.
Pour son 13e anniversaire, son père lui offre un appareil photo.
Le mot mitraille les rues de New York et se passionne pour le cadre et la lumière.
Et en avril 1945, à l'âge de 16 ans, il parvient à vendre sa toute première photo au magazine Look, une institution à l'époque.
Une photo prise dans la rue. Un vendeur de journaux en larmes après la mort de Roosevelt.
C'est la première marche du destin glorieux de Stanley Kubrick.
On entend souvent dire qu'il est devenu l'un des cinéastes les plus doués de sa génération.
Mais c'est plus encore. Kubrick fut sans doute l'un des génies artistiques du XXe siècle.
Et sans aucun doute, le temps ne fera que confirmer cette impression.
Si l'Amérique m'était comptée, avec Stanley Kubrick, ce serait 13 films pour une légende du siècle dernier.
C'est justement au siècle dernier que Michel Halberstadt a eu le privilège de rencontrer Stanley Kubrick. C'était à Londres, en 1987, à l'occasion de la sortie de Full Metal Jacket.
Michel Halberstadt, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Nous allons commencer cette discussion avec un dossier que j'ai entre les mains. Une douzaine de photocopies en noir et blanc que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver. Ce dossier, c'est une interview, un papier également, signé Michel Halberstadt, publié dans le magazine Première en octobre 1987. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Michel, comment est né tout d'abord cet article et cette interview?
Alors en 87, j'ai la chance d'être rédactrice en chef de Première et la double chance que Stanley Kubrick est un film qui va sortir et fait une interview par pays. Il faut vous dire qu'à l'époque, Première, on ne se rend pas compte, mais ça vendait 400 000 exemplaires par mois. C'était vraiment important.
C'était énorme comme magazine.
Voilà.
Donc Stanley Kubrick accepte qu'un journal français vienne l'interviewer à Londres.
Voilà.
Et c'est vous, Michel Halberstadt, qui allez vous y coller à l'époque.
Voilà.
Il faut juste rappeler qu'à l'époque, justement, Stanley Kubrick a disparu depuis 7 ans, quasiment. Il véhicule une image d'un type paranoïaque, odieux, asocial. Quand vous prenez, pas le train à l'époque,
l'avion
pour y aller évidemment, vous partez dans quel état rencontrer Stanley à Londres?
D'autant plus terrifié que je suis enceinte, et que je me dis vraiment que c'est pas les choses à faire quand on est enceinte. Je suis enceinte de 3 mois, donc ça fait une semaine que j'ai revu tous les films de Kubrick, que j'ai lu tous les bouquins qui traînent et qui existent, que je suis totalement terrorisée, et en plus... Je pars pour voir son film, que je n'ai pas encore vu. Donc je dois voir le film l'après-midi et le rencontrer le lendemain. Donc je ne peux même pas préparer une interview parce que je n'ai même pas vu le film. Voilà.
Donc il y a un petit sentiment d'angoisse, on va dire, de trac.
De panique, vous pouvez dire, oui.
Voilà, de panique. Oui, oui. D'ailleurs, vous racontez dans le papier qui précède l'interview qu'au moment donc l'interview arrive, et vous patientez, vous ne savez pas quelle tenue adopter. Est-ce que je prends un air détaché pour être un peu cool? Est-ce que je montre que je suis un petit peu tendu pour faire honneur à cette interview qu'on m'accorde? Arrive une première dame qui vient vous servir un thé, je crois, ou une boisson. Et là, vous racontez une pièce un peu, un décor à la Vermeer, j'ai envie de dire.
Tout à fait.
Vous parlez de bois, de grandes tables en bois, des chaises avec des têtes de lion sculptées. Et donc arrive assez timidement, en fait, Stanley Kubrick. Et quel type vous rencontrez à ce moment-là, du coup?
Mais moi, je ne peux pas me défaire de cette image que j'ai eue de lui et que j'ai eue jusqu'au bout, qui est, c'est Père Noël pour moi. C'est l'image qu'on se fait de Père Noël, quelqu'un qui a une barbe fournie et des cheveux un peu bouclés. Sauf que le regard, quand même, c'est Kubrick. Le regard est noir, perçant, impatient, précis, voilà. Mais sorti du regard, c'est Père Noël. Je ne peux pas vous dire autrement, le grand-père idéal, vraiment.
Alors, on va reparler de cette interview, mais j'aimerais qu'on passe directement à la fin, j'ai envie de dire. Donc, le premier miracle, c'était évidemment que Kubrick accepte que vous veniez, vous, Michel Halberstadt, l'interviewer. Et puis, il y a eu un second miracle dans les heures qui ont suivi, après l'interview. Vous êtes rentré à Paris. Et quand on tient un journal, on aime bien l'illustrer de très belles photos. Mais ce n'est pas simple d'avoir des photos d'un film de Kubrick. Et qu'est-ce qui s'est passé, Michel Halberstadt?
En fait, l'interview a duré un temps absolument incroyable, parce que je suis restée, je crois, 4 heures avec lui. Et en partant, donc, enhardi par ce temps, j'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais vraiment faire la couverture. Les photos, j'en ai pas. Ce que m'a donné la Warner, ça suffit pas. Il m'a dit, écoutez, je m'en occupe. Et donc, en gros, j'ai pris l'avion, il devait être 20 heures. Et évidemment, j'ai pas dormi, j'étais trop excitée, j'avais trop envie d'aller travailler sur mon interview. Donc je suis arrivée à 8h30, 9h du matin dans les locaux de Première. Tout était fermé. Et à l'époque, on avait un bureau paysager. Et au fond du bureau, il y avait une pièce entourée de portes vitrées qui était mon bureau. Et en avançant vers mon bureau, qui n'est pas éclairé, je vois quand même qu'il y a une espèce d'objet marron non identifié posé sur mon bureau. Je me dis, tiens, qu'est-ce que quelqu'un m'a mis un truc pendant que j'étais à Londres? J'ouvre la boîte. Il y avait 300 hectares de photos. 300. Et un petit mot à la main, je ne sais plus ce qu'il avait écrit, « Hope you'll find what you need, Stanley ». Voilà.
C'est
et
la
je
magie.
N'ai jamais su.
C'est la magie Kubrick.
Oui, parce qu'il n'y a pas de train, il n'y avait plus de vol, j'ai pris le dernier vol. Donc, à mon avis, il a envoyé quelqu'un prendre sa voiture et je ne sais pas, je n'ai jamais su. Et je vais vous dire, franchement, je n'avais pas envie de le savoir. C'était tellement magique d'avoir cette boîte sur mon bureau le lendemain matin que voilà, la légende était en marche.
Tout au long de cette interview, hein, qu'on peut lire, Michel Halberstadt, on sent un type brillant, évidemment, mais il y a aussi un truc qui frappe tout de suite, c'est un type totalement connecté au monde qui l'entoure. On a entendu beaucoup de choses sur Kubrick. C'était un mec, voilà, totalement ermite dans son manoir en Angleterre qui s'intéressait à rien. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer la veuve, Christine Kubrick, qui m'a raconté que tous les matins, en se levant, il passait 2-3 heures à lire tous les canards, tous les journaux, à écouter la radio. Et ça transparaît dans votre interview. C'est un type qui s'intéressait à mort à ce qui se passait dans le monde dans lequel il vivait.
Et elle vous a dit ce qu'il faisait l'après-midi après avoir lu tous les journaux?
Ben, vous allez nous le dire.
Il passait sa vie au téléphone. C'est-à-dire qu'il avait inventé Internet avant Internet. Donc chaque personne qu'il rencontrait dans le monde avec laquelle il avait des atomes crochus ou une relation agréable, ça devenait un soldat de Stanley Kubrick. Et il avait comme ça plusieurs soldats à travers le monde. C'est-à-dire qu'un jour, quand Stanley téléphone et vous demande un truc, vous vous mettez en 1000 morceaux. Donc moi, il m'a demandé d'organiser une exposition de peinture de sa femme à Paris. Il m'a demandé de trouver un spécialiste de photo porno pour Eyes Wide Shut. Enfin, il vous demandait des trucs et vous lui disiez, mais Stanley, j'y connais rien. Et vous dites, you'll find. Et c'était incroyable. Il avait tout ce qu'il voulait quand il le voulait.
Le spécialiste des photos porno, vous l'avez trouvé ou pas?
J'ai trouvé, bien sûr. Je suis allée à Drouot, je me suis renseignée, on m'a dit qu'il était le spécialiste. Voilà, et il a réussi à lui trouver des photos.
Dans l'article, évidemment, il est beaucoup question de Full Metal Jacket, le film qui sort à l'époque, mais il s'autorise régulièrement à parler d'autre chose. Et il parle des acteurs, notamment, où il est quand même très très dur avec les acteurs. Il aime, hein, les acteurs. Mais en gros, il nous explique pendant assez longuement, en fait, c'est des feignants, ces acteurs. Kubrick, il a un problème, c'est que ça ne bosse pas, c'est un acteur. Ça. Il est très en colère contre eux, quand même. Hein.
Ouais.
Vous en pensez quoi, vous, en tant que productrice de cinéma?
Il a pas tout à fait tort. Moi, les acteurs, et encore, c'est ce que je lui avais dit à l'époque et je le pense encore plus maintenant. Il a eu la chance de travailler avec des acteurs anglo-saxons qui, a priori, quand même, apprennent les textes. Parce qu'en France, on confond improvisation avec non-préparation. N'importe quel acteur sérieux vous dira qu'il faut connaître son texte par cœur et au cordeau pour après être libre de l'oublier et de le réinventer. Encore faut-il l'avoir appris pour le réinventer. Les Français ont tendance à inventer et pas à réinventer.
Et c'est ce qu'il explique d'ailleurs, installé dans l'article, c'est que notamment pour le sergent instructeur Lee Hermey, qui était lui-même instructeur dans les Marines, hein, il disait que l'assistant de Kubrick le faisait répéter le texte en jouant au football avec un ballon. Comme ça, au moins, il était sûr qu'il connaissait son texte par cœur parce qu'il fallait rattraper la balle et effectivement...
Et dire les mots.
Et dire les bons mots qui sortent et qu'on puisse jouer ensuite.
Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, tas de punaises ». Est-ce que c'est bien clair ?
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef !
Dans l'article, on trouve aussi de longs passages, et c'est là où il est fascinant, sur son souci de qualité de projection des films, des siens et du cinéma en général. Et là, on sent que c'est une obsession chez lui. C'est pas quelque chose de pathologique, hein, c'est quelque chose qui appartient à son amour du cinéma. Et il raconte des choses incroyables. Et je crois qu'un jour, vous m'avez raconté une histoire, il vous a donné une sorte de conseil.
C'était pour Adieu ma concubine.
Avec un gant blanc. Racontez-nous ça.
C'était une semaine avant la sortie. Et il m'a dit, il y a combien de salles, Paris, etc. Et il me dit, les deux copies canoises, parce que les copies canoises, c'est toujours des copies qu'on tire du négatif directement, donc c'est les plus belles. Et il me dit, elles sont où tes copies canoises? Je lui dis, là et là. Et bon, la plus belle salle, c'était une salle qui était sur les Champs-Élysées. Il me dit, ok, alors tu achètes des gants blancs, tu vas voir le projectionniste, tu prends rendez-vous avec lui et tu lui donnes de l'argent et tu lui demandes une fois par semaine de mettre les gants que tu lui apportes et de passer le doigt le long de la pellicule. Je dis pardon, ni oui, c'est la poussière qui raye les films. S'il passe le doigt une fois par semaine, il n'y aura pas de poussière et ton film ne sera pas rayé.
Et la projection sera sublime de manière récurrente.
Voilà.
Exactement. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, parce que ça fait 25 ans cette interview, vous en gardez quel souvenir? Vous y repensez de temps en temps à cette rencontre-là?
Il y a plein de raisons qui m'y font penser. Parce qu'il avait une force incroyable, Kubrick. Et je me souviens, il y a eu à un moment donné l'histoire de ce type qui s'est fait passer pour lui.
Ah, magnifique.
Et quand l'histoire est parue dans Vanity Fair, j'ai appelé, j'ai dit, mais ça, t'as dû vivre un cauchemar. Il dit, non, c'est pas moi que ça dérangeait, c'est les gens qui y ont cru. Je me suis dit, cette année quand même, ce type s'est fait passer pour vous pendant des années. Vous auriez pu au moins faire un communiqué d'avocat, quelque chose, réagir. Il m'a dit, non, si je réagis, il a gagné. Si tu réponds à la rumeur gagne. Il y avait une espèce de force comme ça, absolument incroyable, qui ne faisait pas, il ne se détournait pas de son chemin. Voilà, il avait un principe, et puis c'était à la vie de suivre.
Pour essayer de définir en quelques mots Kubrick, vous m'avez dit également une fois, Michel Halberstadt, que pour vous, Kubrick, c'était le maître étalon, s'il fallait donner un qualificatif à son cinéma, et c'est vrai. Expliquez-nous pourquoi, pour vous, c'est le maître étalon.
parce qu'il a abordé tous les genres et donc il a fixé le maître étalon de chaque genre. Vous pouvez pas avoir un film fantastique sans le comparer à Shining, vous pouvez pas avoir un film d'époque en costume sans le comparer à Barry Lyndon, vous pouvez pas avoir Gravity sans penser à 2001 évidemment, et vous imaginez Napoléon, on s'en mettra jamais de pas avoir vu son Napoléon.
Il manque un western, mais il y en avait un qui était en cours, qui a été abandonné.
Absolument.
Mais il était prévu western avec Marlon Brando, voilà. Semble-t-il, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez du dernier mot prononcé dans le dernier film de Kubrick?
Je me souviens que c'est Nicole Kidman, ouais. Qu'elle est dans le magasin de jouets.
Je vais te dire, il y a une chose très importante. Et ça, il faut le faire le plus vite possible.
Quoi?
Baiser.
Et c'est Eyes Wide Shut, évidemment.
We should fuck, non? C'est pas ça,
le dernier mot, c'est fuck.
Fuck, c'est ça.
C'est pas magique.
Absolument.
C'est fantastique. Non. Dans l'article, également, Michel Halberstadt, on s'aperçoit que c'est le seul qui peut se permettre de parler vraiment des autres en étant un petit peu piquant. Il parle de Coppola, puisque vous comparez, voilà, il y a eu des films de guerre sur le Vietnam avant, Full Metal Jacket. Il y a eu Platoon, qui était tout récent, puis il y avait eu, évidemment, Apocalypse Now. Et moi, j'étais un peu surpris en relisant l'article, parce que je m'aperçois que Kubrick, en fait, n'aimait pas trop le film. Alors, il dit qu'il y a des scènes très très fortes, hein, quand même. Il est pas idiot, Stanley Kubrick. Mais il se permet, et il y a que lui qui peut se permettre ça, quand même. Et il y va. Et il se permet comme ça de dézinguer un peu ses collègues, quand même.
Et pourquoi pas?
Mais moi, j'ai adoré avoir ce point de vue de Kubrick sur
Coppola. Mais je crois que c'est quelqu'un qui se foutait complètement de ce qu'on pensait de lui, hein. Mm-hmm. Vraiment. Il vivait en Angleterre, il adorait l'Angleterre, ça me faisait beaucoup rire que les gens le prennent pour un Anglais et pas pour un Américain. Il avait quand même pas mal d'humour sur... voilà, il trouvait la nature humaine quand même assez... les gens assez paresseux. Et je pense qu'il n'avait d'admiration que pour les gens où il sentait du boulot. Et Apocalypse Now, ce que j'ai pas mis dans l'interview, c'est qu'il trouvait que si le mec a mis un an à faire son film, c'est qu'il l'avait pas préparé. C'était vraiment ça son truc. Bon, ça j'ai pas osé l'écrire, mais je me souviens très bien de ça.
Et Brando connaissait pas le texte.
Et Brando connaissait pas le texte.
À la décharge de Coppola. Voilà. Il est arrivé, il connaissait rien du tout.
Voilà. Alors on peut aussi dire qu'il a mis un an à faire Eyes Wide Shut.
Oui.
Mais il avait du mal avec ses acteurs. Il était un peu fatigué. Et puis, une chose aussi que disait toujours Kubrick, c'est que lui, il tournait à très très peu de monde. Ils étaient 10 sur le plateau. Donc en un an à 10 personnes, il coûtait moins cher que beaucoup de films américains où il tourne en 8 semaines. Hein.
Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un documentaire qui est sorti au cinéma, Room 236.
Ouais, je l'ai pas vu.
C'est un documentariste américain qui essaye de reprendre toutes les théories, à la fois farfelues mais aussi très sérieuses et très établies autour de Shining. Et c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, on parlait de paresse là, il n'aimait pas la paresse, on s'aperçoit de la folie professionnelle, travailleuse de Kubrick, non pas laborieuse, hein, c'est pas
non,
laborieux.
C'est obsessionnel.
C'est obsessionnel. Mmh. Et on s'aperçoit que, voilà, il a tout prévu dans ce film-là. Alors parfois, il y a de la surinterprétation, évidemment, mais c'est aussi le rôle des gens qui s'accaparent des œuvres d'art. Mais en écho à ce film, je me disais, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça pour terminer, Michel Halberstadt, mais que Kubrick, c'est un des immenses génies du XXe siècle. Vous êtes d'accord avec
totalement
ça?
Totalement d'accord.
Vraiment.
Oui, puis en plus, il a été visionnaire. Franchement, 2001, Odyssée de l'espace, ce film ne sera jamais démodé, c'est pas possible. Et il en est de même pour Shining. Voilà, le maître étalon, c'est bien ce qu'on dit. Si vous voyez plus haut que les autres avant les autres, oui, c'est une forme de génie quand même.
Ah oui, et c'est pas un mot galvaudé le concernant, en fait.
Voilà. Sûrement
c'est,
pas.
C'est un génie, Stanley Kubrick. Merci beaucoup, Michel Halberstadt.
Au revoir.
À bientôt, prenez soin de vous.
Merci.
Et enfin, non, je disais enfin, c'est maintenant enfin, c'est la dernière lettre, mais elle va nous permettre de commencer avec Orange Mécanique. Quelqu'un qui dit que sur la foi de quelques critiques qui crient au chef-d'œuvre, je suis allé voir l'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, j'étais déçu, pour moi c'est du chiquet. La violence aujourd'hui elle est politique, révolutionnaire, en principe au service de la raison, de la justice et de l'humanité. Or M. Kubrick prétend nous faire croire qu'elle est apolitique, sadique et sexuelle, c'est une erreur ou un mensonge. Bien.
Oui, parfois certains auditeurs du masque sont un peu obtus. Mais à leur décharge, pour aimer les films de Kubrick, il faut aimer les sous-textes, les références et parfois se les faire décrypter. Ce que le journaliste Laurent Vachaud va faire pour nous.
Il consiste en quoi au juste le traitement que vous allez me faire ?
Laurent Vachaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes particulièrement intéressé à Eyes Wide Shut, notamment avec un article qui est apparu dans Positif, c'était en janvier 2013, Secret de la pyramide. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet article?
Ce qui m'a conduit à écrire cet article, c'était la résistance que j'éprouvais devant Eyes Wide Shut au début. C'est-à-dire quand je l'ai découvert, que j'étais comme tout le monde, on attendait ce film-là depuis des années. Il n'avait pas fait film depuis Full Metal Jacket, donc c'était depuis 12 ans. En plus, il était mort, donc c'était encore plus attendu. Et quand je l'ai vu, moi j'avais un effet d'emballement immédiat sur tous ces films quand je les découvrais, malgré l'attente. Il y avait toujours peut-être des fois une petite déception, mais quand je les revoyais immédiatement, c'était vraiment un éblouissement. Et pour celui-là, je me souviens que j'avais été très impressionné par le côté esthétique du film, par plein de choses, mais il y avait une sorte de résistance où je trouvais qu'il y avait un flou, je trouvais le film un peu lent, et à force de le regarder, j'ai vu ce qu'on pourrait appeler des dessins dans le tapis, des choses dans l'iconographie visuelle du film, qui me paraissaient être très très signifiants et qui n'étaient pas là par hasard, parce que chez Kubrick, il y a cette précision maniaque, c'est-à-dire qu'il refaisait 250 fois des scènes, et si vous aviez un objet posé au premier plan qui après était à gauche dans le deuxième plan, c'était pas une erreur de continuité de script, c'est qu'il en avait peut-être décidé ainsi. Alors ça, on n'en sait rien, mais moi je veux le croire, et en tout cas ma théorie et ma grille de lecture confirment cette impression-là.
Ayez l'obligeance d'ôter votre masque.
Kubrick, ce sont 13 longs métrages, et chacun de ces films, mis bout à bout, forme justement une œuvre, un ensemble, dans lequel, et là on ressort la grille de lecture, il y a des thèmes transversaux. On va essayer de les traverser
avec...
Oui,
d'ailleurs, son premier film qui est très peu connu, qui est sorti récemment, qui s'appelle Fear and Desire, la peur et le désir, ça pourrait même être le titre de Eyes Wide Shut, vous voyez, quelque part aussi.
Quoi. On était en 53 avec ce premier film. Alors, notamment dans ces grands thèmes, il y a les symboles maçonniques. Alors, le symbole maçonnique chez Kubrick est très présent.
Oui, alors je dirais pas que c'est un grand thème du cinéma de Kubrick, je dirais que moi c'est plutôt un motif qui m'est apparu, moi, et à plein d'autres je suis sûr, qui ont regardé ces films et ces affiches notamment. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître dans plein de scènes, dans plein d'affiches, le motif d'une pyramide, du triangle, avec des colonnes par exemple, qui font bien sûr penser à l'emblème maçonnique, enfin de la fameuse du fameux compas maçonnique et des colonnes, des deux colonnes doriques. Vous pouvez le voir bien sûr dans le plan d'ouverture d'Eyes Wide Shut, quand Nicole Kidman se déshabille, vous pouvez, personne ne le voit, mais vous pouvez voir deux colonnes dans la chambre, des colonnes comme dans un temple, et vous voyez l'arrangement des rideaux de la fenêtre qui dessine un triangle, et d'autant plus à l'analogie avec la pyramide étant plus forte, que vous avez un store qui est sur la fenêtre et qui dessine un petit peu comme des briques, comme ça. Et le film s'appelle Eyes Wide Shut, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose, les yeux grands fermés, c'est-à-dire que ça interroge le regard du spectateur et ça vous dit, vous croyez avoir vu quelque chose, mais vous ne l'avez pas vu. Là, vous vous intéressez à une jolie femme qui se déshabille, parce que le regard du metteur en scène dirige le regard du spectateur vers la femme nue, alors qu'en fait, pour moi, ce qui est pratiquement aussi important, c'est ce qui est caché, c'est ce motif-là. C'est-à-dire que la femme se déshabille devant cet emblème qui représente la puissance occulte supérieure du film, comme il y avait une puissance occulte supérieure dans 2001 l'Odyssée de l'espace qui était symbolisée par ce monolithe qui était filmé à un moment comme une pyramide brisée en contre-champ dans un des plans les plus célèbres du film, comme les puissances occultes invisibles de Shining étaient les revenants et les fantômes les forces démoniaques de l'hôtel Overlook, comme par exemple la puissance dominante de Barry Lyndon par exemple, c'est le narrateur désincarné qui raconte l'histoire de Barry en voix off et qui paraît déjà en connaître tous les aspects avant même le personnage. C'est-à-dire que le personnage a l'air prisonnier comme ça d'un destin scellé d'avance, quoi. Et ça, c'est vraiment un thème très très fort chez Kubrick que vous pouvez retrouver pratiquement dans presque tous les longs métrages. C'est-à-dire que l'individu se croit libre, donc avec un libre arbitre, alors qu'en fait il est contrôlé par des puissances supérieures, que ce soit des hommes, des extraterrestres, des fantômes, qui en fait décident de son sort. Et jusqu'au bout, il ne voit pas, il se croit maître alors qu'il est esclave. Et c'est le cas aussi du docteur Hartford, joué par Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, qui croit appartenir à une caste dominante, alors qu'en fait il n'est qu'un laquais du personnage de Sidney Pollack, qui lui est le vrai maître des marionnettes du film.
Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider.
HAL 9000, l'ordinateur, aussi, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un esprit supérieur. Chez Kubrick, on a tous ces éléments que vous nous apportez, Laurent Vachaud, symbole maçonnique, effectivement la pyramide, l'œil orange mécanique, c'est l'œil de la Providence aussi, il est là très présent.
Vous voyez l'affiche d'orange mécanique, puisque ça s'appelle A Clockwork Orange en anglais, et le E est en fait sur l'affiche un grand triangle, comme ça, et vous voyez le personnage d'Alex qui brandit un couteau, et il a, vous savez, des boutons de manchette dans le film, qui sont des yeux arrachés de leurs orbites, comme ça, sanguinolents, et vous voyez comme par hasard que l'œil de bouton de manchette est placé juste au-dessus du sommet du triangle du A. Et vous voyez en Orange Mécanique, il y a plein d'autres scènes. Quand il est sur scène après le traitement Ludovico et qu'on lui présente une jeune femme nue pour voir s'il réagit toujours à ses instincts comme ça meurtriers, vous voyez un plan de contre-champ où vous le voyez comme filmé depuis les coulisses. Et là, vous voyez le faisceau du projecteur qui l'éclaire sur scène. Et vous voyez un point lumineux qui dessine une forme triangulaire aussi. Alors après, vous pouvez vous amuser à le rechercher partout, mais chez Kubrick, je pense franchement que ça fait partie d'une mise en scène très élaborée, des arrière-plans, des motifs visuels qui donnent aussi... Il était très intéressé, vous savez, par le subliminal, c'est-à-dire qu'il était extrêmement intéressé par des choses qui pouvaient comme ça passer. Notamment, il étudiait beaucoup les publicités, les spots de publicité, parce qu'il était intéressé sur la manière de véhiculer des idées par l'image.
Mon Dieu, ce garçon est dans un triste état. Regardez-moi cette tête.
Ce n'était pas moi, mon frère. Défendez-moi, monsieur, je ne suis pas si mauvais. Je me suis fait duper par des êtres machiavéliques.
Il tirerait des larmes à un mur, celui-là.
Où sont passés les faux droguises? On les fourre au bloc avant qu'ils prennent la fuite. Ce plan était le leur, mes frères. Ils m'ont obligé à obéir, mais moi, je suis innocent.
D'ailleurs, cette multiplication de lectures possibles et d'indices nous conduit assez rapidement à la théorie du complot. Ça a été lu comme ça aussi chez Kubrick. Il y aurait des indices, par exemple. Laurent Vachaud, c'est quoi le projet Monarque?
Il s'intéressait beaucoup aux théories de la conspiration. Il y avait une anecdote comme quoi il retournait pas dans un certain restaurant chinois qui pourtant il trouvait délicieux parce qu'il trouvait que le patron était un peu trop éduqué pour n'être qu'un simple patron de restaurant. Donc il se méfiait. Donc vous voyez, il y avait quand même... Ça fait partie de la légende de Kubrick. C'est beaucoup de choses fausses qui ont été racontées sur son contrôle, son goût du contrôle, sur son perfectionnisme. Mais il y a quand même des choses, je pense, qui font partie du personnage et qui seraient absurdes de nier parce qu'elles apparaissent aussi dans son cinéma. Donc le projet Monarque, c'est en fait un programme de lavage de cerveau qui avait été mis au point par la CIA dans les années 50-60, où des savants nazis qui travaillaient dans les camps de concentration avaient été exfiltrés par la CIA avec l'immunité pour pouvoir travailler pour le compte du gouvernement américain dans des asiles psychiatriques dans le but de fabriquer des assassins programmés. Et vous voyez Orange Mécanique, c'est quand même très proche de ça aussi, le lavage de cerveau qu'on fait subir à Alex dans le film pour essayer de le désintoxiquer de sa violence, et c'est quand même une violence qu'on lui fait subir, et on lui fait voir des films pour le brainwasher, pour lui rendre vraiment insupportable ce qui avant l'excitait le plus, c'est-à-dire la musique de Beethoven, la violence, quoi. Donc il y avait chez lui toujours cette notion de lavage de cerveau dans tous ses films. Vous pouvez voir Full Metal Jacket, c'est ça aussi, c'est quand même les jeunes recrues qu'on endoctrine comme ça pour les transformer en machines à tuer. Vous avez Shining, c'est quasiment les revenants qui font un lavage de cerveau à Jack Nicholson pour le convaincre de tuer sa femme et son fils. Vous avez L'Odyssée de l'espace, c'est une sorte de lavage de cerveau, puisque quand le singe touche la pierre monolithique comme ça, il commence à avoir un comportement qu'il n'avait pas. Donc il y a l'idée que on est conditionné par quelqu'un, par quelque chose, dans un but bien précis. Et moi, c'est en fait cette grille de lecture qui me manquait d'avoir Eyes Wide Shut, qui pouvait très bien fonctionner à partir du moment où on regardait le film comme l'histoire d'un couple, et notamment d'une femme qui avait été peut-être brainwashée par une puissance supérieure qui est représentée par la confrérie à laquelle appartient Sidney Pollack, alors dans laquelle on peut voir des maçons, des Illuminati. C'est pas clair, c'est jamais nommé. Et c'est pas tellement le problème, parce que ça reste symbolique. Kubrick, je pense pas, n'est pas en train de dire dans Eyes Wide Shut, les Illuminati sont parmi nous, il y a un grand complot de toutes les familles puissantes dirigeantes, même s'il cite quelques noms. Ça reste quand même extrêmement intellectuel, c'est-à-dire ça reste extrêmement mental. C'est du cinéma quand même très mental. Et vous savez, c'était un grand joueur d'échecs, passionné par des tas de choses, c'est une sorte de cerveau complètement encyclopédique. Donc je pense pas qu'il cherchait à dénoncer quelque chose, mais la prolifération de ces symboles-là, qui peuvent être liés à des symboles lucifériens, à des symboles scientologiques, à des symboles maçonniques, participent à cet effet comme ça subliminal de truffer un film de ce genre de symboles pour voir si le spectateur finit par, vous savez, ressentir ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fantastique, mais on sent que quelque chose n'est pas tout à fait juste dans ce qui nous entoure, c'est-à-dire quelque chose nous gêne sans qu'on puisse vraiment définir quoi.
Brainwatcher, j'aime beaucoup le mot.
Voilà.
Non, mais pourquoi pas? C'est vrai, on n'a pas de mot en français. Se faire laver le cerveau, on
dirait. Oui, conditionné.
Ouais, conditionné, si, c'est
et donc,
pas mal.
Monarque, donc, pour finir là-dessus, c'était le nom de ce programme de lavage de cerveau, dont d'ailleurs il n'existe pas vraiment de preuves établies, puisque les archives de la CIA ont été détruites par un de ses directeurs, Richard Helms, 1973. Et donc, Monarque, c'était le nom d'un papillon qui avait servi, comme ça, le Monarque Milkweed a qualifié ce programme de lavage de cerveau, parce qu'on disait que les sujets étaient après dans un état flottant, un peu comme un papillon, quoi. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappé, je me souviens, c'est quand j'ai regardé le film Shining, à un moment, j'ai vu la célèbre scène où le petit garçon joue aux fléchettes à son arrivée à l'Overlook et voit les fameuses jumelles fantômes pour la première fois. Donc c'est l'image du double, hein, donc, et même de la personnalité divisée quelque part. Et vous avez un poster derrière au mur où on voit un skieur et il y a marqué Monarque, exactement orthographié comme le traitement de lavage de cerveau. Et donc moi je dis ça peut pas être un hasard. C'est-à-dire en plus il y a effectivement une station de ski dans le Colorado qui s'appelle Monarque, mais ça s'appelle Monarque City, ça s'appelle pas Monarque tout court, quoi. Et donc ça fait partie de cette espèce de subliminal, parce que Shining ça raconte ça aussi, ça raconte un enfant brutalisé, abusé par son père, hein, qui a développé finalement un don, qui a sa personnalité qui s'est divisée entre lui et ce petit personnage qui s'appelle Tony, hein, qui fait parler comme ça. Et qui dit c'est le petit garçon qui parle dans ma bouche. Et Shining, ça désigne la personnalité divisée, c'est-à-dire cette espèce de faculté de pouvoir voir dans l'avenir et dans le et son petit personnage Tony qui est son autre lui-même qui a donc cette faculté là. Donc c'est aussi un film qu'on peut voir sur l'abus infligé à un enfant qui peut donner naissance à une division de la personnalité. Et c'est exactement ce que le traitement Monarque faisait, c'est-à-dire traumatiser des gens et des enfants pour fragmenter leur personnalité et les reconstruire après en les conditionnant.
Je crois que vous n'avez pas conscience du danger que vous courez. Vous ne les tromperez plus très longtemps. Il faut que vous partiez avant qu'il ne soit trop tard.
Mais de manière extrêmement concrète, vous, Laurent Vachaud, vous apportez une analyse de Eyes Wide Shut autour du conditionnement, voilà, avec la notion de secte. Et là, alors là, on est obligé de se dire, il y a quelque chose à ce moment-là dans la tête de Kubrick quand il fait ce film.
Oui, de secte ou de société secrète.
Vous savez, scientologie. Tom Cruise est scientologue, la fille de Kubrick est scientologue, oui, oui. Le film est fait à ce moment-là, et apparaît un personnage, vous avez su l'identifier, parce que il est là, mais c'est pas un personnage insignifiant, c'est oui. Un autre scientologue.
Oui, oui. Oui, c'est en fait le secrétaire personnel de Tom Cruise, parce que il faut savoir qu'à l'époque, Tom Cruise voulait quitter la scientologie vers 1995-96. En tout cas, il voulait prendre ses distances avec la secte parce que Nicole Kidman n'approuvait pas ça. Et eux, ils ont vraiment pris peur et ils voulaient à tout prix le ramener vers la secte. Et ils lui ont collé un type dans les pattes qui était en gros un secrétaire personnel qui avait déjà été crédité producteur associé. Mais c'est juste en fait une sorte de garde du corps ou de secrétaire personnel, mais qui était une sorte de watchdog, de surveillant comme ça, comme on pouvait imaginer dans la Russie des années 50, hein, quelqu'un du KGB qui vous escortait partout comme ça, et il rendait compte le type le soir au grand leader de la secte qui s'appelle David Miscavige, hein, qui est le type qui a pris la suite de Ron Hubbard à la tête de la scientologie, et il décrivrait les faits et gestes de Tom Cruise dans le détail, quoi.
Et Kubrick le met dans le film, ce personnage,
Kubrick le met dans le film pour jouer le secrétaire particulier du grand Manitou qui est joué par Sidney Pollack. Donc ça peut pas être un hasard, et il y a rien de gratuit chez Kubrick. Il pouvait choisir n'importe quel autre acteur pour jouer ça, parce que ce type est pas un acteur en plus, hein, c'était le secrétaire personnel de Cruise. Donc je pense que ce sont des détails comme ça qu'il a voulu, à travers l'histoire de ce couple qu'on voit dans Eyes Wide Shut, il a voulu aussi faire un film sur son acteur principal, je pense, en tout cas sur ces gens qui sont abusés et dans lequel il a probablement projeté sa fille.
Qui était, elle, aussi victime de la scientologie.
Voilà, qui a disparu dans la scientologie vers 1995. Il lui avait demandé de composer la bande originale de Eyes Wide Shut et elle a refusé. Et donc, elle a quasiment quitté l'Angleterre pour aller s'installer à Los Angeles. Et donc, tout ça, ça s'est passé pendant le tournage et la post-production d'Eyes Wide Shut, où Kubrick aurait écrit des lettres à sa fille pour l'implorer de revenir. Elle avait refusé. Elle n'est revenue finalement que lors de ses obsèques, hein, entourée de deux garde de la scientologie, elle est repartie avec et elle n'est pas revenue au décès de sa sœur après quelques années plus tard. Et elle a fait ce qu'on appelle une déconnexion, c'est-à-dire que vous coupez, c'est ce que la secte vous oblige à faire, hein, vous coupez tous les liens avec votre famille, c'est-à-dire tous les gens qui peuvent essayer de vous ramener, quoi. Alors après, on n'est pas en train de raconter que c'est ça qui a tué Stanley Kubrick, hein, mais ça a sûrement participé d'un stress qui a dû accompagner la post-production d'Eyes Wide Shut. Et moi, je veux pas croire qu'il n'est pas que ce film n'ait pas été hanté par ça, quoi.
Laurent Vachaud, faut le répéter, il n'y a pas de hasard dans ce que fait Kubrick. Et il y a ces 13 longs métrages, ces 13 films, puis il y a la
la légende.
La 14e œuvre, qui est sa légende.
Ben, c'est quelqu'un, oui, qui a créé un mythe, hein, quasiment. C'est une œuvre unique parce que c'est un cinéaste en porte-à-faux qui est à la fois, qui se veut commercial et qui, en même temps, a des ambitions artistiques les plus élevées, quoi.
Et encore, plein de choses à découvrir, donc faut regarder tout Kubrick. Merci beaucoup, Laurent Vachaud.
Merci.
C'était Junior et sa vérité nue.
Le vrai Kubrick, son ancien producteur James B. Harris l'a bien connu. Les deux hommes étaient amis et de l'ultime razzia à Eyes Wide Shut, ils ne se sont jamais quittés.
James B. Harris, bonsoir.
Good evening.
Vous êtes né à New York le 3 août 1928. Stanley Kubrick est né à New York le 26 juillet 1928. Vous êtes né au même endroit, à quelques heures d'intervalle, j'ai envie de dire. Et c'est assez extraordinaire quand on connaît l'histoire qui vous unit ensuite. Alors, pour commencer, à quel âge avez-vous rencontré Kubrick pour la première fois et dans quelles circonstances ?
I met Stanley Kubrick for the first time.
J'ai rencontré Stanley Kubrick pour la première fois.
When I was in the army, actually.
Quand j'étais à l'armée, en fait.
I was stationed with a friend of Stanley's. Stanley was not
J'étais enrôlé avec un ami de Stanley. Stanley lui-même n'était pas à l'armée à l'époque.
But his friend and I were in the same unit, and
Mais
so.
Mais son copain et lui, on était dans la même division.
His friend wanted me to meet Kubrick because
cet ami voulait que je rencontre Kubrick parce qu'il voulait me montrer ce que quelqu'un à un âge vraiment très très jeune pouvait faire à cet âge-là. Et moi, effectivement, ça m'intéressait. Et j'avais très envie de rencontrer ce petit génie. Parce qu'on me disait qu'il avait déjà réalisé deux courts-métrages et un long-métrage, et ça m'impressionnait beaucoup.
Ah donc, à 26 ans, à l'âge où vous avez rencontré Kubrick, quel type de jeune homme c'était James Barris ?
C'était
de très intelligent, de très sophistiqué intellectuellement.
Et
très pauvre.
Il
fallait toujours qu'il aille gratter de l'argent de ci, de là pour essayer de faire ses films. Ou emprunter de l'argent à ses oncles ou à des amis, à plein de gens. Il arrivait à faire le mieux qu'il pouvait à partir de ses petits moyens. Et c'est ça que je trouvais extraordinaire, c'est qu'il arrivait toujours à ses fins.
Et donc vous êtes venu l'aider, hein, puisqu'il faut tout de suite dire que vous avez été le producteur de trois de ses premiers films, et pas des moindres, L'Ultime Razzia, il y a ensuite Les Sentiers de la Gloire et Lolita. Donc L'Ultime Razzia, je le disais, c'est le premier film que vous avez produit, c'est aussi le premier film professionnel, hein, j'ai envie de dire, de Stanley Kubrick. Vous lui aviez trouvé, je crois, $320 000, si je dis pas de bêtises, avec une première équipe professionnelle autour de lui. Et on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, James Barris, que voilà, c'est un jeune, tout jeune cinéaste, il a 27-28 ans. Il y a un chef opérateur sur le tournage. Kubrick a prévu un travelling avec une focale, un angle particulier, que le chef opérateur est venu changer un petit peu ça, parce que lui, en tant que professionnel et un petit peu aguerri, pensait que c'était mieux. Kubrick l'a aperçu, est allé le voir, il lui a dit, du haut de ses 27 ans, « Si tu retouches à ma caméra, très calmement, hein, je te fous dehors. » Ce qui laisse déjà entre-apercevoir la volonté et la précision de Stanley Kubrick. C'est une histoire vraie, ça, ou pas, James Barris?
We're going all the way back to 1955.
Alors là, on revient à 1955. Et c'était Lucian Ball, le directeur de la photo dont vous parlez. Et là, à cette époque-là, c'était quelqu'un de célèbre, quelqu'un vraiment du haut du panier. Il était le mari de l'actrice Meryl Oberon à cette époque.
Et
il ne s'attendait pas que ce jeune réalisateur qui débarquait de New York lui apprendrait une leçon et il prendrait cette place-là. C'était pas exactement ce qu'il s'attendait à propos de la caméra, à propos des objectifs. Stanley Lundy était vraiment capable de faire la lumière de ce film-là tout seul. Et donc ça s'est pas si bien passé que ça entre deux.
Ils
n'avaient pas une bonne relation de travail pendant le tournage. Et si je me rappelle bien, je crois que c'est le seul film que je connaisse où le directeur de la photographie n'est pas venu au rush. Mais vous savez, Stanley se fichait bien s'il était apprécié ou pas par les gens. Le respect que les gens lui portaient venait simplement du fait qu'il était compétent pour défendre tous les points de vue qu'il avait, toutes les choses qu'il leur demandait, à chaque aspect du problème dont on parlait à un moment. Quel que soit ce problème, quel que soit ce dont on parlait, les gens se rendaient compte que Stanley était compétent. C'était fou, mais il était intelligent, il avait une connaissance des choses, et c'était clair. Et donc, tout le monde le respectait, et donc les gens faisaient ce qu'ils demandaient. À certains moments, les acteurs ne voulaient pas continuer à tourner la même scène encore et encore, mais Stanley les convainquait qu'ils pouvaient le faire mieux.
Est-ce que c'est grâce à cette compétence dont vous parlez, James Barris, que Kirk Douglas, énorme star à l'époque déjà, se retrouve à l'affiche du second film que vous avez produit et réalisé ensemble, hein, Les Sentiers de la Gloire, parce que, voilà, Stanley Kubrick, L'Ultime Razzia, ça a marché, c'est un joli film, c'est un petit succès, mais néanmoins, dès le deuxième film, vous décrochez une énorme star d'Hollywood, Kirk Douglas. Comment cette star américaine hollywoodienne s'est retrouvée sur le tournage et à l'affiche de ce film, Les Sentiers de la Gloire?
The situation with the acquisition of Kirk Douglas to do
Ce qui s'est passé pour l'engagement de Kirk Douglas,
the script was a good
ça
script.
Vient du fait que le scénario était bon.
And that the killing, was,
et que L'Ultime Razzia
received in Hollywood
avait été perçu à Hollywood comme quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant.
And Kubrick came along with it.
Et que Kubrick, il en a bénéficié.
Kirk Douglas had done enough films
Kirk Douglas avait assez fait, assez de films pour être assez assuré et se dire que c'était pas trop un problème de se retrouver devant un metteur en scène qui n'avait pas tant d'expérience que ça. Et Kirk Douglas était lui dans cette position-là, il était dans une position de force. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure qu'il a travaillé avec Kubrick, il s'est rendu compte qu'il travaillait avec quelqu'un qui était extrêmement talentueux. La preuve, c'est que quand Douglas a eu un problème sur Spartacus, il était, le réalisateur était Anthony Mann, il était en train de m'appeler, il m'a appelé, et il m'a demandé si c'était possible de faire Spartacus, et ça ne pouvait vraiment venir que du fait, c'est qu'il respectait sincèrement Kubrick.
Alors Anthony Mann avait commencé le tournage, Kirk Douglas n'en était pas content, il a effectivement intégré Stanley Kubrick pour terminer le film Spartacus. Donc, au début des années 60, vous étiez tous les deux à Hollywood, James Beavis et Kubrick. Et je crois savoir que vous étiez plus à l'aise en Californie que Kubrick. Il n'était pas très à l'aise avec l'ambiance californienne, Stanley Kubrick, si ?
Non, Kubrick
n'est
pas ce que vous appelez sitting on the beach, lying in the sun.
Il ne pouvait pas du tout trouver le moins de plaisir à se mettre sur la plage et à prendre le soleil.
In the library,
il était dans les bibliothèques.
He felt much more comfortable
il se sentait beaucoup plus à l'aise, à Londres, par exemple.
When we went to, London to
et quand on est parti à Londres pour tourner Lolita,
he was very impressed with
il était très impressionné par,
the city itself,
par la
people,
ville
intelligence,
elle-même. L'intelligence, la culture, la sophistication des gens.
California did not,
la Californie, ça ne correspondait pas à ce qui l'impressionnait.
He really never went back.
Vraiment, il n'y est jamais retourné.
Il n'était pas très surf, Stanley Kubrick. Donc, vous l'avez évoqué, hein, Lolita, c'est le troisième film que vous avez fait ensemble. Et ensuite, Kubrick a continué à produire ses films seul parce qu'il vous a aussi poussé à faire vos propres films. Vous êtes devenu metteur en scène, cinéaste, James Beavis. Et quand on regarde Sleeping Beauty, il y a par exemple des sols en damier qui offrent une très très belle perspective. Il y a des lumières qu'on dirait naturelles. Il y a des plans dignes d'un tableau de maître hollandais du XVIIe siècle. On a le sentiment que vous venez du même monde imaginaire que Kubrick, à la fois classique et moderne. Vous êtes d'accord avec cet héritage que vous partagez tous les deux ?
Je lui ai envoyé
une
copie de Sleeping Beauty.
Actually, I don't think he had the time to, you know, to really analyze the picture.
Je crois qu'il n'avait pas eu le temps de le regarder attentivement et de l'analyser.
Yeah. Eyes Wide Shut is some kind of an extension.
Mais
you know, a big production.
Cela dit, il me semble que Eyes Wide Shut est comme une sorte de grosse production, mais une suite, hein, du même thème finalement.
Yeah, but I know he did like Cop very much.
Il aimait beaucoup Cop.
Because after he saw Cop,
quand il a vu Cop,
I went to visit him in
je lui ai rendu visite.
We spent the whole night together and
en Angleterre, on a passé toute une nuit. Et il m'a dit, ouais, non, t'étais vraiment un bon réalisateur. Et moi, j'ai pensé
que
c'était quand même le meilleur compliment du monde qu'on peut avoir de la part de quelqu'un comme ça. Si jamais Kubrick vous dit ça, je crois que ça peut aller, quoi.
Vous avez également évoqué il y a quelques instants cette propriété dans le nord de Londres, un manoir qu'il a acheté. Je crois que c'est le manoir de Chadwick Bury, si je ne dis pas de bêtises. C'est un lieu assez fantasmé pour les fans, ce château, ce manoir de Kubrick. Vous y êtes déjà allé, visiblement, dans cette propriété. Ça ressemble à quoi, ce château de Kubrick au nord de Londres ?
It's a big estate.
C'était une grande propriété.
And he would turn it into a studio.
Il l'avait transformé en studio. Avec des départements, il y avait des pièces pour le montage, des salles de montage.
Sandy divided his time in between his family.
Il partageait son temps entre sa famille là et puis son travail.
Not much else.
Et rien d'autre.
In 1999, I returned.
En 99, j'y suis retourné. Tristement, c'était pour son enterrement. Et cette maison que j'avais donc visitée quand il était vivant.
And he's actually buried in the backyard.
Vous savez qu'il est enterré là, hein, dans le jardin.
I was sitting with Christiana, his wife.
J'ai passé du temps avec Christiane, sa femme, près de sa tombe. Et je lui dis, Christiane, qu'est-ce qui va t'arriver si jamais tu dois déménager? Est-ce que tu vas déterrer le corps de Stanley? Qu'est-ce qui se passe si jamais tu dois vendre?
I'm never going to move.
Et elle m'a dit, jamais je vais déménager, jamais never. Je partirai, jamais.
But she probably won't. So
et je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Et donc, ça ne restera là.
The fact is that when I went to the funeral,
en vérité, quand je suis allé à l'enterrement,
knowing Stanley better, I think, than anyone who
je pense que j'étais celui qui connaissait le mieux Stanley, plus que toute autre personne.
All of these sort of newfound friends, like
il avait des nouveaux amis, comme Tom Cruise, Nicole Kidman, d'autres gens comme ça. Mais comment connaît-on vraiment quelqu'un avec lequel on ne travaille que sur un film, hein?
Ouais,
je le connaissais sur 50 ans. J'ai laissé mon manteau dans la pièce. En fait, c'était une tente qui avait été montée.
They buried him under the tent, which is actually in the backyard. So when
puisqu'ils avaient construit cette tente et elle était montée au-dessus de là où la tombe avait été creusée. J'avais laissé mon imperméable là. Et quand je suis retourné sous la tente pour reprendre le manteau, il y avait des gens, je pense que c'était des gens qui étaient là pour creuser. Ils étaient en train, finalement, de remettre de la terre sur la tombe
enterrée.
Ils faisaient leur boulot et ils essayaient de faire au mieux. Et ça me rappelait le travail que l'on faisait nous aussi pour terminer les boulots, pour essayer de bien finir les boulots. Et nous, on avait partagé ça. On entend souvent que c'était un des plus grands metteurs en scène du monde. Mais vous savez, au final, vous terminez dans une boîte sous la terre avec des mecs qui vous versent un peu de terre dessus, alors que c'est un immense metteur en scène. C'est triste.
And you know, if we could have discussed this.
Alors voilà, on aurait pu en parler. J'aurais aimé en parler.
What we had to look forward to when we were kids.
Ce qu'on avait eu envie de faire quand on était enfant.
In some foreign
country. Et d'où on avait fini. Des pays étrangers, de finir en Angleterre, loin de New York.
And you got all these strangers just pouring dirt over
avec plein d'étrangers autour de vous qui vous versent de la terre sur la boîte.
I mean, that's, I guess, the way life is.
J'imagine que c'est ça la vie.
But at least,
mais au moins,
all these terrific films are
ces films
still
merveilleux,
here.
Ils sont là, ils restent.
And I'm happy to say that three of them were mine as well.
Je suis vraiment fier de dire qu'il y en a trois et demi, on va dire, parce que Docteur Follamour, un petit peu, que j'y ai participé.
J'ai beaucoup d'émotions à vous entendre parler de votre amitié avec Stanley Kubrick. Est-ce que vous y pensez tous les jours, à votre ami Stanley?
I think of Stanley in many ways.
Je pense à Stanley de bien des façons.
Prompted by his films constantly appear.
D'abord, ses films sont partout.
And when I'm writing scripts and developing,
quand j'écris des scénarios, quand j'essaie de les produire, je pense à comment on faisait ça ensemble.
How I learned,
et comment, combien j'ai appris de lui. Notamment sa haine du dialogue explicatif.
He also told me another thing, which
il m'a appris une chose, d'ailleurs, que je ne respecte jamais.
Don't do interviews.
Il m'a dit, ne fais jamais d'interview. Et regardez-moi, je suis là avec vous.
Mais c'est un plaisir de vous avoir avec nous aussi.
I'm glad to be here, but Stanley,
je suis content d'être là, mais Stanley me disait toujours
that people will think of things far better and far more interesting.
Les gens comprendraient beaucoup mieux les films que toi-même.
Don't talk about the film.
Je ne parle pas du film, n'explique pas, laisse les gens imaginer.
They probably will think, you know, probably
ils vont certainement penser des choses beaucoup plus intéressantes,
more intelligent things than
beaucoup plus intelligentes que ce que tu avais en tête, toi.
En tous les cas, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à découvrir vos films, et en particulier Sleeping Beauty, La Belle au Bois Dormant, La Belle Endormie, un film absolument fantastique. Et même si Stanley Kubrick vous avait déconseillé de donner des interviews, James Barris, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'avoir croisé votre route aujourd'hui et de vous entendre nous parler de votre ami Stanley Kubrick. Prenez soin de vous et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.
Oh, thank you, and it was a pleasure being here.
Un plaisir partagé. Cette émission s'achève avec l'émotion de James B. Harris et le souvenir de Kubrick. Que pourrait-on y ajouter ?
Merci aux indispensables Marco Mutel, Thierry Dupin, Olivier Lefayère et Grégory Guillot. Merci aussi à Harold Manning pour l'interprétation simultanée de James B. Harris. Merci enfin à Guillaume Roux, Fabrice Desmaz, Gilles Gaillard et Aveline Carmois pour la technique.
Et puis merci à Joy Raffin.
Oui, moi, Joy Raffin, la voix narrative de cette émission.
Merci Joy.
À la semaine prochaine.
Bye Fox, and see you next week.